Chapitre 17. Le chapitre 17 des actes vus sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 17 des actes montre comment l'évangile de l'eau et de l'esprit est témoigné avec hardiesse sans perdre sa propre identité, en plein cœur de la culture, de la philosophie et de diverses religions. Les événements de ce chapitre enseignent clairement avec quelle logique le salut, accompli par le baptême que Jésus a reçu de Jean et par le sang de la croix, doit être proclamé devant le monde de l'intellect et du pluralisme religieux. Actes, chapitre 17, versets 1 à 4, la synagogue de Thessalonique, sur l'inévitabilité de l'événement du salut prouvé par les Écritures. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. En arrivant à Thessalonique, Paul discute avec eux d'après les Écritures pendant trois sabbats dans la synagogue des Juifs. En expliquant le sens, il témoigne que le Christ devait souffrir et revivre d'entre les morts et dit « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui était le Christ ». L'évangile que Paul prêchait n'était pas une simple émotion religieuse, mais la proclamation d'un événement qui révélait, comme une inévitabilité historique, pourquoi le Christ devait recevoir le baptême de Jean au fleuve Jourdain pour prendre sur lui les péchés de l'humanité, pourquoi ces péchés devaient être jugés sur la croix, et pourquoi la résurrection devient la preuve publique de l'achèvement de cette expiation. Actes, chapitre 17, versets 5 à 9, la raison du tumulte, sur l'influence de l'Évangile qui ébranle l'ordre du péché et de la condamnation. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici ». Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Les Juifs, jaloux de l'évangélisation de Paul, prirent de méchants hommes et provoquèrent un tumulte dans la ville, accusant le groupe de Paul en disant « Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici. » Tout comme ils l'ont dit, l'évangile de l'eau et de l'esprit a le pouvoir d'ébranler jusqu'aux racines le pouvoir religieux du monde, la justice humaine et le système de la loi. Ce que Paul a bouleversé n'était pas l'ordre social, mais l'ordre du péché et de la condamnation qui avait opprimé l'humanité. Parce que l'évangile renverse le système de propre justice établi par le monde et établit la justice de Dieu, il provoque inévitablement un tumulte. Acte. Chapitre 17, versets 10 à 12, Béré, sur l'attitude consistant à essayer de confirmer l'authenticité du salut par la parole écrite. Aussitôt, les frères firent au partir de nuit Paul et Silas pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Les habitants de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, recevant la parole avec un esprit fervent, et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, la noblesse de la foi ne réside pas dans le niveau intellectuel ou les études académiques, mais dans l'attitude consistant à confirmer par soi-même si le contenu de l'évangile proclamé s'aligne avec le baptême que Jésus a reçu de Jean et l'événement de la croix dont parle la Bible. L'évangile de l'eau et de l'esprit ne craint pas la vérification et révèle la réalité de sa vérité à ceux qui sondent profondément les Écritures. Actes, chapitre 17, versets 16 à 21, le paysage d'Athènes, sur la douleur spirituelle à laquelle s'est confrontée une société excessivement religieuse. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient de leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. À Athènes, voyant que la ville entière est pleine d'idoles, Paul est irrité dans son cœur. Ce n'était pas une simple colère, mais une profonde lamentation pour les âmes errantes qui, malgré le débordement de philosophie et de religion, ne connaissaient pas en réalité la seule voie pour l'effacement des péchés. Les Athéniens et les étrangers, ceux qui y résidaient, ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter les choses les plus nouvelles. Mais leur divertissement intellectuel ne pouvait pas résoudre le problème fondamental du péché de l'humanité. D'Actes, chapitre 17, versets 22 à 23. Le Dieu inconnu, sur la limite concernant le péché que la religiosité du monde ne pouvait pas résoudre. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Paul se tient au milieu de l'aréopage et commence son sermon en disant « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Il souligne la limite de la religiosité humaine en disant « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». L'expression du Dieu inconnu était une marque d'impuissance montrant que l'intellect humain et le zèle religieux ne peuvent jamais atteindre la réalité du Dieu qui a résolu le péché. Actes, chapitre 17, versets 24 à 29, la déclaration du Créateur « Sur la souveraineté de Dieu surpassant les pensées humaines et les idoles, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Paul déclare « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Cela révèle que Dieu n'est pas quelqu'un de confiné dans les besoins humains ou les systèmes philosophiques. Il souligne que les pensées humaines ou toute idole ne peuvent de pas mettre fin au péché, et que seul le Dieu créateur, qui donne la vie et la respiration à toute l'humanité, peut sauver les humains par l'événement du salut qu'il a accompli. Actes, chapitre 17, versets 30 à 31, le cœur de la conclusion sur le commandement de se repentir et la norme du jugement confirmée par la résurrection. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Paul s'écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir ». La repentance ici n'est pas une réflexion morale, mais un commandement de rejeter les pensées philosophiques humaines et de tourner ses pensées vers l'événement de l'expiation accompli par le baptême et la croix de Jésus. De plus, Dieu proclame ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et la résurrection est la preuve publique finale de Dieu, montrant que le salut est déjà parfaitement achevé. Actes, chapitre 17, versets 32 à 34, la différenciation des réponses sur le choix et la responsabilité des intellectuels face à l'Évangile. Lorsqu'ils entendirent te parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent « Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux ». La réponse des personnes qui ont entendu le sermon de Paul fut que, lorsqu'ils entendirent le parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Cependant, certaines personnes s'approchèrent de lui et crurent, et parmi elles se trouvait Denis, un magistrat de l'Aréopage, une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres personnes. L'Évangile ne s'efforce pas de persuader tous les intellectuels, mais laisse derrière lui ceux qui croient, en amenant chaque personne à prendre une décision et à assumer sa responsabilité face aux faits proclamés du salut. En conclusion, le chapitre 17 des Actes témoigne que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit doit être proclamé comme le même événement historique immuable, que ce soit dans une synagogue juive ou en plein cœur de la philosophie grecque. La religiosité et l'intellect ne peuvent de jamais mettre fin aux péchés humains, et seul le changement de perception qui croit au baptême et à la croix de Jésus est le chemin de la vie. Le chapitre 17 des Actes est l'histoire audacieuse de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit montrant que, même dans le monde de l'intellect, l'Évangile doit être la seule vérité qui ne souffre d'aucun compromis. Un sermon de Paul Sejong. La parole du chapitre 17 des Actes, versets 1 à 34, rapporte le voyage urgent de Paul prêchant l'Évangile à Athènes, qui était le centre de la scène intellectuelle de l'époque, après être passé par Thessalonique et Bérée. En regardant cette parole du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit prêché par le pasteur Paul Sejong, le chapitre 17 des Actes n'est pas un simple récit de voyage d'évangélisation, mais un magnifique trésor de l'Évangile montrant comment Dieu proclame la réalité du salut accompli dans un lieu où la philosophie humaine et le zèle religieux ne peuvent pas atteindre. En arrivant à Thessalonique, Paul a discuté avec eux d'après les Écritures pendant trois sabbats, expliquant le sens et démontrant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et a proclamé « Ce Jésus que je vous annonce est exactement le Christ ». Ici, le ministère du Christ que Paul a démontré ne s'arrête pas simplement à la souffrance de la croix. À la base du sermon de Paul se trouve toujours la prémisse de l'Évangile de l'eau, à savoir que Jésus a pris sur son propre corps tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste au fleuve Jourdain. Lorsque cet évangile de l'eau et du sang a été proclamé, une grande multitude de Grecs pieux et un nombre non négligeable de femmes de distinction ont été persuadées et ont suivi Paul et Silas. Mais les Juifs qui s'accrochaient à leur propre justice sont devenus jaloux et ont provoqué un tumulte sur la place publique. Se rendant ensuite à Bérée, le groupe de Paul a été témoin que les gens de là-bas avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, recevant la parole avec un esprit fervent et examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La vraie foi ne commence pas par une excitation émotionnelle, mais en confirmant avec exactitude la loi du salut témoignée par la parole écrite de Dieu. Ils ont confirmé à travers les Écritures la vérité du baptême par lequel Jésus a pris sur lui les péchés de l'humanité et de la croix par laquelle il a payé le prix de ses péchés. Et par conséquent, l'œuvre de beaucoup de croyants ainsi que d'un nombre non négligeable de femmes et d'hommes grecs de distinction retournant au Seigneur s'est produite. Par la suite, en arrivant à Athènes, Paul a vu que la ville entière était pleine d'idoles et a été irrité dans son cœur. Il s'est, donc, entretenu dans la synagogue et sur la place publique avec ceux qui le rencontraient. Les philosophes épicuriens et stoïciens qui se vantèrent de leur sagesse à l'époque se sont moqués de Paul en disant « Que veut dire ce discoureur ?» Mais Paul a proclamé le vrai Dieu, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, à ceux qui adoraient le Dieu inconnu en plein milieu de la place de l'Aréopage. Paul a révélé que Dieu a fait que toutes les nations de l'humanité, sorties d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, et a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, soulignant que les idoles faites de mains d'hommes ne peuvent jamais devenir Dieu. Le point culminant du sermon de Paul à Athènes portait sur la repentance, le jugement et la résurrection. Il a proclamé « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes chapitre 17, versets 30 à 31. La repentance dont il était question ici ne signifie pas un remords religieux, mais un revirement de la foi, consistant à rejeter les vains efforts pour laver les péchés avec la philosophie humaine et les bonnes œuvres, et à se tourner vers la justice parfaite accomplie par Jésus-Christ, par l'eau et l'esprit. Face à la proclamation de la résurrection des morts, certains des intellectuels d'Athènes se sont moqués, et d'autres ont montré une attitude réservée en disant « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Mais parmi eux, Denis, un magistrat de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres personnes se sont approchées de Paul et ont cru. L'évangile auquel ils ont cru était le secret pratique de l'effacement des péchés que la philosophie d'Athènes ne pouvait pas donner. Seul cet évangile de l'eau et de l'esprit, selon lequel Jésus a ôté tous nos péchés pour toujours en recevant le baptême au fleuve Jourdain et a mis fin à la punition pour ses péchés sur la croix, pouvait conduire les habitants d'Athènes, qui étaient, sous la peur de la mort et de la condamnation, à la vraie vie. Le chapitre 17 des Actes nous pose la question aujourd'hui. Sondez-vous l'évangile de l'eau et de l'esprit, avec un esprit fervent comme les Béréens, ou écoutez-vous seulement de nouvelles connaissances et philosophies comme les Athéniens ? Dieu ne nous a pas donné un réconfort philosophique, mais le salut certain accompli par le baptême et le sang du Fils. C'est seulement là où cette vérité est propagée que Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés au fleuve Jourdain et a été jugé sur la croix, et que le Saint-Esprit confirme ce fait dans le cœur de ceux qui croient que l'œuvre de la vie éternelle se produit. En conclusion, le chapitre 17 des Actes témoigne que, même dans le lieu où l'intellect humain était le plus brillant, seul l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus-Christ est l'unique puissance pour résoudre le problème fondamental du péché de l'humanité. Ceux qui croient à cet évangile n'errent plus à la recherche d'un Dieu invisible, mais en viennent à vivre avec hardiesse la vie d'un témoin tout en louant Dieu au sein du salut déjà accompli. C'est l'essence de l'évangile que l'apôtre Paul a proclamé au péril de sa vie devant les philosophes d'Athènes. Questions et réponses sur le chapitre 17 des Actes. Première. Les personnes vivant au XXIe siècle doivent-elles posséder fermement la structure de la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, en se tenant en plein cœur de la culture, de la philosophie et des diverses religions du monde? Les personnes vivant au XXIe siècle vivent dans un environnement où diverses cultures, philosophies, idéologies et religions sont mélangées. C'est une époque où l'information déborde, où les valeurs sont relativisées et où la vérité est considérée comme une question de choix personnel. Au milieu de cette situation, si ce que l'on croit n'est pas clair, la foi peut facilement être ébranlée. Par conséquent, si l'on est une personne qui croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est très important de comprendre clairement la structure de cette foi et de se tenir fermement dans la conviction. Avoir une structure de foi certaine ne signifie pas simplement avoir un zèle émotionnel, mais signifie savoir clairement sur quoi le salut est fondé. Il doit être clair comment le péché a été résolu, pourquoi le salut est une grâce, et pourquoi le ministère du Christ, et non le mérite humain, en est le centre. Si ce fondement est faible, la confusion surgit facilement face à la philosophie mondaine ou au pluralisme religieux. De plus, dans un état sans conviction personnelle, il est difficile de prêcher l'évangile aux autres. Lorsqu'on vous pose une question, vous ne pouvez pas l'expliquer. Et lorsque vous entendez des critiques, vous ne réagissez que sur la défensive. Cependant, si vous comprenez le cœur de l'évangile bibliquement, vous pouvez l'expliquer clairement sans attaquer l'autre personne. La conviction donne un sentiment de stabilité, et non de coercition. En outre, la culture mondaine renforce constamment la pensée centrée sur l'humain. Le succès, le développement personnel, un sentiment de supériorité morale et la tolérance relativiste peuvent brouiller la norme de la foi. À ce moment-là, si la structure de l'évangile est claire, vous pouvez discerner sur la base de la grâce de Dieu et non de l'effort ou de la philosophie humaine. L'évangile n'a pas l'intention de régner sur la culture, mais fournit une norme inébranlable même en plein cœur de celle-ci. En fin de compte, la conviction de l'évangile est la puissance pour se protéger soi-même et le fondement de la mission envers les autres. ce n'est que lorsque le centre de sa foi est clair que l'on peut maintenir une cohérence dans la vie et prêcher l'évangile aux autres de manière persuasive également. Ce qui est encore plus nécessaire dans l'environnement complexe du XXIe siècle n'est pas une nouvelle stratégie, mais une compréhension et une conviction claire concernant le contenu du salut. En se tenant sur cela, la foi devient également solide et le témoignage gagne aussi en puissance. Deuxième. Aujourd'hui, lorsque ceux qui, à travers le monde, ont cru à l'évangile de l'eau et de l'esprit et sont devenus des collaborateurs de l'évangile, veulent propager l'évangile, doivent-ils témoigner, en sachant avec certitude, que la structure de l'évangile de la croix et la structure de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont différentes l'une de l'autre? S'il y a des personnes qui coopèrent à la propagation de l'Évangile à travers le monde, il est avant tout important de comprendre clairement le contenu et la structure de l'Évangile qu'elles prêchent. C'est parce que la propagation de l'Évangile n'est pas une question de zèle ou d'envergure, mais une question de ce qu'il faut prêcher et de comment le prêcher. Si seules les activités priment sans comprendre clairement la structure fondamentale de l'Évangile, le message peut devenir flou. Connaître la structure de l'Évangile ne signifie pas simplement répéter des slogans, mais savoir clairement sur quelle base repose le salut. Il faut être capable d'expliquer bibliquement comment le ministère de Jésus-Christ est lié au problème du péché. Quelle est la signification de la croix et comment cet événement rédempteur s'applique aux humains. Lorsque des compréhensions différentes existent, il ne faut pas traiter la différence de manière émotionnelle mais l'organiser calmement sur la base du texte biblique. Surtout, même en utilisant l'expression « l'évangile de la croix », la compréhension de savoir s'il s'agit d'un simple symbole, d'un événement d'expiation de substitution ou de l'achèvement de la rédemption doit être claire. Un prédicateur de l'Évangile doit discerner la différence de contenu plutôt que la différence de terminologie. C'est parce que, si l'on ne comprend pas la structure, on peut transmettre un sens différent tout en utilisant le même mot. En même temps, pour expliquer la différence dans l'Évangile, des fondements bibliques et de l'humilité sont nécessaires et non une attitude agressive ou un sentiment de supériorité. L'Évangile n'est pas un outil pour gagner un débat, mais un message qui illumine la voie du salut. La clarté et la douceur doivent aller de pair. En fin de compte, ce qui est de nécessaire pour un collaborateur qui croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas l'expansion des activités, mais la clarté du contenu. Lorsqu'on connaît et témoigne clairement de ce qui est le centre du salut et de la manière dont le mérite humain et la grâce de Dieu se distinguent, l'évangile n'est pas déformé. Connaître clairement la structure de l'évangile est exactement la puissance de la propagation. Et cette clarté devient le fondement qui permet au même message d'être prêché partout dans le monde. Troisième, la raison pour laquelle les Béréens, dans le chapitre 17 des Actes, versets 10 à 12, ont été qualifiés de personnes aux sentiments plus nobles, est-elle parce qu'ils examinaient si la parole que l'apôtre Paul prêchait était ce que disait la Bible ou non ? Dans le chapitre 17 des Actes, versets 10 à 12, il est rapporté que les Béréens avaient des sentiments plus nobles que les habitants de Thessalonique. La raison n'est pas simplement parce qu'ils étaient polis ou avaient beaucoup de connaissances, mais parce qu'ils ont reçu la parole que l'apôtre Paul prêchait avec un esprit fervent et cherchait chaque jour si elle était fondée sur la Bible. Ici, l'expression « sentiment plus noble » est une évaluation qui inclut à la fois l'attitude et le discernement. Ils n'ont ni rejeté inconditionnellement, ni accepté aveuglément. D'abord, ils ont écouté avec un esprit ouvert, et en même temps, ils ont confirmé en comparant avec la Bible écrite. La Bible qu'ils avaient à cette époque était l'Ancien Testament, et ils examinaient si le contenu concernant Jésus-Christ, témoigné par Paul, s'alignait avec les prophéties de cet Ancien Testament. Cela montre un exemple selon lequel la foi doit reposer sur la parole révélée, et non sur une réponse émotionnelle. Cette scène révèle un principe important. Il s'agit du fait que, peu importe à quel point l'autorité de la personne prêchant la parole de Dieu puisse paraître grande, la norme finale est la Bible. Même l'apôtre Paul a été soumis à la vérification de la Bible. C'est un principe qui doit continuer à être appliqué, même au sein de l'histoire de l'Église. Une attitude consistant à examiner si tout enseignement s'aligne avec la Bible est nécessaire. De plus, il est rapporté que les Béréens cherchaient chaque jour. Ce n'était pas une confirmation ponctuelle, mais un examen continu. Cela montre de la ferveur et de la sincérité dans le traitement de la vérité. Cette attitude ne vient pas d'un simple esprit critique, mais d'un désir pieux de connaître avec exactitude la révélation de Dieu. En fin de compte, les Béréens respectèrent la parole et en même temps, ils la discernaient. Par conséquent, la Bible dit que beaucoup d'entre eux crurent. Lorsqu'un esprit ouvert et une vérification centrée sur la Bible sont combinés, une foi saine est formée. C'est la raison pour laquelle les Actes ont évalué les Béréens comme ayant des sentiments plus nobles, et c'est une attitude de foi qui peut être appliquée aujourd'hui également. Quatrième, les personnes qui sont fidèles aux religions mondaines peuvent-elles atteindre la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur? Le cœur de cette question est de savoir si le zèle religieux devient le moyen d'atteindre la vérité du salut. En regardant le déroulement de la Bible, le fait même d'être fidèle à la religion ne garantit pas la conviction du salut. C'est parce que, bien que le zèle religieux puisse être un cœur dirigé vers Dieu, ce zèle ne s'aligne pas nécessairement avec le centre de l'évangile. L'apôtre Paul dit dans les Romains qu'Israël a du zèle pour Dieu, mais non selon une connaissance exacte. Ils étaient fidèles à la loi, mais ils ont échoué à atteindre le point d'accepter la justice de Dieu par le Christ. Cela montre que la loyauté religieuse et la foi en l'Évangile ne sont pas la même chose. Le zèle, si sa direction n'est pas la bonne, peut échouer à mener au salut. Cependant, en même temps, la Bible dit que Dieu donne l'opportunité de la repentance et de la foi à tous les hommes. Même une personne fidèle à la religion peut atteindre la foi si elle entend le message du salut témoigné par la Bible et réalise que c'est la vérité. Le problème ne réside pas dans le contexte religieux du passé, mais dans la manière dont on accepte l'Évangile dans le présent. Les structures religieuses peuvent parfois placer le mérite humain ou la tradition au centre. Plus une personne est restée longtemps au sein de cette structure, moins le changement de pensée peut être facile. Cependant, l'Évangile ne proclame pas le mérite humain, mais la grâce de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit ouvre le cœur, une personne peut aller au-delà du cadre existant et atteindre la vérité. En fin de compte, la réponse pour savoir si les personnes fidèles aux religions mondaines peuvent également entendre la vérité de l'Évangile et atteindre la foi est que cela est possible. Cependant, ce n'est pas en raison de la fidélité religieuse, mais en raison de la grâce de Dieu et de la foi qui accepte l'Évangile. La norme du salut ne réside pas dans l'intensité du zèle, mais dans le fait de savoir si l'on se confie en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Cinquième, si nous prêchons l'évangile auquel nous croyons aux intellectuels du monde, c'est-à-dire la foi selon laquelle Jésus a eu les péchés du monde transférés sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean, est mort sur la croix, est ressuscité et nous conduit au royaume du Seigneur, comment cela apparaîtrait-il à leurs yeux ? Pour les intellectuels du monde, la foi selon laquelle Jésus a reçu le baptême de Jean est mort sur la croix et ressuscité. Et nous conduit au royaume de Dieu peut apparaître de diverses manières. Pour certains, cela apparaît comme une confession de foi incluant des affirmations historiques et des événements surnaturels et peut être ressenti comme difficile à vérifier selon les normes des méthodes scientifiques ou de la rationalité philosophique. En particulier parce que des événements comme la résurrection reposent sur le témoignage et l'interprétation plutôt que sur des preuves empiriques, il y a aussi des cas où ils le considèrent avec scepticisme. Pour d'autres, ce message est également compris comme un langage symbolique. Le baptême peut être interprété comme une marque de dévotion, la croix comme un symbole de sacrifice et la résurrection comme une métaphore de l'espérance. De ce point de vue, il y a une tendance à essayer d'accepter la foi comme une signification existentielle ou une leçon éthique. Par conséquent, la foi qui confesse l'événement du salut comme une réalité historique et transcendante peut apparaître comme une interprétation littérale. Cependant, tous les intellectuels ne réagissent pas de la même manière. Parmi ceux qui étudient la philosophie, l'histoire et les sciences religieuses, il y a aussi des personnes qui explorent sérieusement la foi chrétienne non pas comme une simple superstition, mais comme un système de pensée et une réponse existentielle formée dans l'histoire. Ils ne considèrent pas la foi uniquement comme une irrationalité aveugle, mais la comprennent également comme une réponse unique aux questions sur les limites et la transcendance de l'existence humaine. En fin de compte, la façon dont cette foi apparaît dépend de la prémisse. Si l'on fixe la raison humaine comme norme absolue, la révélation transcendante peut paraître difficile à accepter. Inversement, si l'on reconnaît la prémisse selon laquelle la raison humaine a des limites, on peut laisser ouverte la possibilité de la révélation et de la foi. Par conséquent, pour les intellectuels du monde, cette foi peut apparaître parfois comme irrationnelle, parfois comme symbolique, et parfois comme un objet d'exploration sérieuse. Ce qui est important, c'est le fait que la foi n'est pas un domaine complètement séparé de la raison, mais qu'elle inclut des affirmations et des interprétations historiques, ainsi que des questions ontologiques. Lors de l'explication de la foi, une attitude consistant à présenter calmement ce que dit cette foi et quelle signification elle revêt est nécessaire, plutôt qu'une simple affirmation.